Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission des Grands Entretiens. Je vous propose aujourd'hui de nous plonger littéralement dans l'histoire antique. Nous sommes dans les premiers siècles de notre ère, dans les premiers siècles de l'histoire du christianisme et de l'Église. L'Empire romain, nous le savons, a fait sienne la culture grecque. Mais parallèlement, cet empire doit faire face à une nouvelle culture, une culture qui ne cesse de se développer et qui sera amenée un jour à jouer un rôle majeur dans l'histoire du monde. Il s'agit bien évidemment du christianisme. Nous avons l'habitude de parler des racines gréco-latines, mais aussi judéo-chrétienne de l'Europe, mais cette facilité de langage, entre guillemets, ne doit pas occulter les débats qui, dans les premiers siècles, ont obligé le christianisme à se situer non seulement par rapport à l'État romain, mais aussi et surtout par rapport à la culture grecque, à la culture hellénique. Je vous propose aujourd'hui de mieux comprendre cette relation entre christianisme et hellénisme, entre foi et raison. Existait-il des liens entre chaque? Si oui, quelle fut la nature de ces liens? Peut-on accuser le christianisme d'avoir épuré la culture grecque, comme cela a souvent été affirmé? Est-ce qu'enfin le christianisme n'était pas l'expression simple d'une foi, refusant de s'aventurer sur le champ de la raison? C'est ce que nous allons voir avec l'historien Sébastien Morlet. Sébastien Morlet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureux de faire cette émission. Alors, vous venez de publier un livre aux éditions Belles Lettres, « Les chrétiens et la culture, conversion d'un concept ». Donc, nous sommes entre le 1er et le 6e siècle. Mais cet ouvrage s'inscrit dans une continuité ou dans la continuité d'un premier livre que vous avez publié il y a 2 ou 3 ans, si mes souvenirs sont bons, qui s'intitule « Christianisme et philosophie, les premières confrontations », donc là aussi, même période, 1er siècle et 6e siècle. Et « Christianisme et philosophie », contrairement à ce que laisse entendre son titre, n'est pas un livre de philosophie, mais c'est un livre d'histoire qui montre les liens, l'intégration du concept philosophique dans ce que l'on appelle la patristique, c'est-à-dire les pères de l'Église, qui constitue le centre de vos recherches. Voilà. Donc, ce livre, Les chrétiens et la culture, s'inscrit dans cette continuité.
Oui, tout à fait. J'avais commencé à m'intéresser à la question du rapport entre christianisme et philosophie, parce que cette problématique, me semblait-il, était souvent traitée de façon très, très simple, voire simpliste, c'est-à-dire qu'on avait tendance à opposer radicalement le christianisme d'un côté et la philosophie grecque, et on a souvent une représentation extrêmement fidéiste, en fait, du christianisme, comme si le christianisme, les chrétiens de l'Antiquité, avaient tourné le dos complètement à la rationalité grecque. Alors j'ai essayé dans ce petit livre, en 2014, de présenter une vue plus équilibrée des choses, en fait. Donc je rappelle qu'il y a une polémique entre les philosophes et les chrétiens. Il y a des philosophes grecs qui, dès le 2e siècle, écrivent contre les chrétiens, ce qui oblige les chrétiens à répondre aux philosophes. Mais à côté de cette polémique, il y a également des chrétiens qui cherchent à se rapprocher de la philosophie et qui, dès le 2e siècle, reprennent à la philosophie des mots, mais également des concepts, des modes de raisonnement. Et cette intégration, comme vous l'avez dit, va jouer un rôle fondamental dans ce que va être la doctrine chrétienne en cours de constitution. Voilà. Et suite à ce livre, j'avais envie d'élargir un peu, parce que la problématique du rapport à la philosophie n'épuise pas toute la richesse de la question du rapport entre les chrétiens et les grecs. Il y a également toute la question de la culture grecque, en fait, qui se pose. Finalement, que représente cette culture pour les chrétiens de l'Antiquité?
Alors, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous faites un bond vers nos temps contemporains. Pour nous, le mot culture a un sens tout autre qu'il possédait à l'époque des premiers siècles. Que signifiait ce mot de culture?
Oui, alors effectivement, c'est un mot qu'on emploie très souvent aujourd'hui et pour désigner des choses très, très différentes. Il faut rappeler que dans l'Antiquité, c'est un mot latin déjà, cultura, et ce mot, il fait allusion très directement à l'agriculture, en fait. La culture, c'est la culture du champ. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès la fin du 1er siècle, chez un auteur comme Cicéron, par exemple, ce mot et cette image sont utilisés de façon métaphorique pour désigner la culture de l'esprit. Donc finalement, la culture, la cultura, c'est tout ce qu'on peut utiliser pour cultiver son esprit. Donc finalement, le mot en vient à désigner une série de disciplines intellectuelles qui sont en fait très concrètement les disciplines qui sont considérées dans l'Antiquité comme celles qu'il faut acquérir quand on est un lettré. Hein, donc en fait, ce sont des disciplines considérées comme élémentaires, propédeutiques, qu'on enseigne au niveau secondaire et que finalement, tout homme de bonne famille a forcément reçu. Donc ce qui est intéressant, c'est que le mot est latin, mais l'idéal culturel qui est évoqué par un Cicéron qui parle de cultura animi était connu également des Grecs, en fait. Hein. Donc le mot est latin, mais la chose, l'idée, en fait, l'idée de culture nous renvoie bien avant les Latins dans la Grèce classique.
Il n'y a qu'une culture, c'est la culture grecque.
Oui, on peut dire ça, en fait. Hein. L'idéal des Grecs et des Romains n'est pas du tout un idéal multiculturel. Hein. Le concept de culture se dit au singulier, en fait. Jamais dans les textes on ne voit ce terme ou cette notion utilisée au pluriel. Les Grecs, puis les Romains, sont convaincus qu'ils incarnent la culture. Et par définition, il n'y en a qu'une.
La culture distingue, en fait, l'homme cultivé du barbare ?
Oui, exactement, c'est ça. Hein. L'homme cultivé, on pourrait presque dire l'homme civilisé, le lettré, comme disent les Latins, le pepaidomenos, comme disent les Grecs. Donc effectivement, c'est un idéal d'humanité, en fait, qui se joue à travers la culture.
Alors que nous, notre acception, elle est beaucoup plus généraliste. On parle des cultures, il y a eu un débat politique sur la notion de civilisation, François Hollande a utilisé le terme des civilisations. Là, véritablement, en fait, il y a une sorte d'unité intellectuelle autour de la Grèce.
Oui, probablement parce que les Grecs ont une conception de l'humanité qui est beaucoup plus restrictive que la nôtre, en fait. Hein, ils ont vraiment le sentiment d'incarner un idéal d'humanité.
Oui, oui, oui.
Et derrière, finalement, cette notion de culture se joue, comme vous l'avez dit, la dichotomie fondamentale entre les Grecs, les barbares, les hommes civilisés et puis les autres.
Alors arrive la culture chrétienne, mais on ne va pas parler encore de culture chrétienne. Le christianisme se fonde sur un texte, le Nouveau Testament. Or, vous le montrez bien, le Nouveau Testament est un texte grec à l'origine. Et un homme, par exemple, comme Saint Pierre, est un homme qui vient d'un milieu où l'on parlait grec, où on imagine que l'on parlait grec, où il y avait une influence grecque.
Oui, alors si on se replonge sur les tout premiers temps de la communauté, si on regarde les Actes des Apôtres, par exemple, il est question dans la toute première église, celle de Jérusalem, hein, celle qui se constitue dans les années qui suivent la mort de Jésus, de chrétiens, d'ailleurs ils ne s'appellent pas encore chrétiens, il faut attendre quelques années, le texte, les Actes évoquent la naissance, l'apparition du mot chrétien à Antioche. Quand on est à Jérusalem, donc dans les tout premiers temps de la communauté, il est question des Hébreux et des Hellénistes. Donc derrière cette distinction entre les Hébreux et les Hellénistes, en général on veut reconnaître une distinction entre des chrétiens qui sont de culture sémitique, donc qui probablement parlaient l'araméen, peut-être l'hébreu, et puis des chrétiens, ils sont tous juifs à l'époque évidemment, il n'y a pas encore de païens dans la communauté, mais ces juifs disciples de Jésus, eh bien certains d'entre eux sont proches de la culture grecque déjà, hein, dès les Actes, et d'ailleurs leurs noms, ceux qui sont donnés dans le texte, sont des noms grecs, Philippe, Étienne par exemple, hein, Stéphanos, c'est un nom grec. Donc effectivement, dès les premiers temps de la communauté, certains chrétiens sont déjà assez proches de la culture grecque, et comme vous l'avez dit, le Nouveau Testament est constitué de textes qui ont été composés en grec. On s'est parfois demandé si l'évangile de Matthieu n'avait pas un original sémitique, mais tout le monde n'est pas d'accord sur cette hypothèse. Tout ce qu'on peut dire dans l'état actuel de nos connaissances, c'est que ces textes ont été composés en grec.
Oui, donc on peut affirmer que dès l'origine, il semble difficile de se... Que le christianisme se détache de cet hellénisme parce qu'il est grec.
Oui, Tout à fait. On parle souvent de l'hellénisation du christianisme. C'est un concept qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, parce qu'effectivement, ce concept d'hellénisation du christianisme supposerait que le christianisme ait existé dans un état de pureté originelle, sans aucun contact avec l'hellénisme. Or, ça, c'est une vue de l'esprit, en fait, parce que dès le départ, vous l'avez dit, le Nouveau Testament, c'est le texte de référence des chrétiens, avant d'être, avant même la Bible juive. Et donc, dès le début, en fait, la doctrine chrétienne va se constituer dans une interaction permanente avec la culture grecque. Donc, on ne peut pas vraiment les dissocier.
Alors, quand est-ce que les chrétiens, à quel moment les chrétiens, et par, j'allais dire, nous-mêmes historiens, on a pu commencer à se pencher sur cette idée que la Grèce, enfin les chrétiens, s'intéressent peu à peu aux faits grecs et à la culture grecque. À partir de quand, dans la chronologie, nous trouvons les premiers textes qui évoquent cette culture grecque ?
Eh bien, à vrai dire, on les trouve dès le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, justement, dont on a parlé. C'est un texte qu'on situe entre 80 et 90, à peu près, donc on est à la fin du 1er siècle. Dans le passage célèbre où Paul séjourne quelque temps à Athènes, il est interpellé par des philosophes à Athènes, des stoïciens et des épicuriens, qui lui demandent de rendre compte de sa doctrine, parce qu'ils sont très surpris, et ils sont surpris notamment par l'idée de résurrection. Donc, on ne sait pas du tout si ce séjour de Paul à Athènes a une historicité, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'auteur du texte a cherché, à travers cet épisode, à illustrer de façon au moins symbolique une confrontation avec le monde grec. Hein. Et très vite, ensuite, la question devient fondamentale, presque aussi fondamentale, presque plus fondamentale, même peut-être chez certains auteurs, que la question du rapport au judaïsme. Et ça s'explique tout simplement parce que très vite, les païens, les anciens païens, vont devenir majoritaires dans la communauté. Hein. Le deuxième siècle, c'est un siècle au cours duquel les païens vont véritablement s'imposer dans l'Église. Mmh. Donc, ces anciens païens n'ont pas de rapport avec le judaïsme, ils connaissent mal le judaïsme, la question du judaïsme ne les intéresse pas. Il faut quand même dire qu'il y aura une polémique avec le judaïsme très importante qui va durer pendant toute l'histoire du christianisme, mais ces chrétiens qui sont d'origine païenne sont avant tout intéressés par la question du rapport à l'hellénisme, parce que ça les concerne directement, finalement. Donc, des auteurs du deuxième siècle, comme Justin, comme Tatien, comme Théophile, comme Athénagore, tous ces auteurs sont d'anciens païens. Donc, finalement, leur christianisme leur pose un problème, et leur pose un problème de conscience, finalement. Ils doivent, à titre personnel, résoudre aussi ce problème, finalement. Que faire de leur éducation ? Que faire de la culture qu'ils ont reçue, dès lors qu'ils se sont faits les disciples du Christ ?
Donc vont se poser deux options. La première option, c'est l'opposition. Et la deuxième option, c'est l'assimilation, on peut utiliser ce terme-là ?
Oui, peut-être. Donc effectivement, on s'aperçoit que dès le deuxième siècle, les chrétiens, la littérature chrétienne, emprunte deux directions. Il y a des chrétiens qui vont tourner le dos à la culture grecque et ils vont essayer de construire, de définir une identité chrétienne qui serait absolument étrangère à tout contact avec l'hellénisme. Donc certains apologistes, c'est-à-dire des chrétiens qui écrivent pour défendre leur religion et montrer la supériorité du christianisme par rapport à l'hellénisme, on peut penser à des auteurs comme Tatien, par exemple, dans son discours aux Grecs, ou Théophile d'Antioche. Il y a également des hérésiologues, c'est-à-dire des chrétiens qui écrivent pour dénoncer les hérésies. On parle déjà d'hérésie au IIe siècle, donc un auteur comme Irénée de Lyon, vers la fin du IIe siècle. Les hérésiologues sont souvent convaincus que l'hellénisme est l'une des sources, la source principale même, de l'hérésie. Donc ça, c'est un argument qui va contribuer à enrichir le dossier des méfiances que suscite l'hellénisme. Et puis on peut évoquer, parmi ces chrétiens qui sont plutôt opposés à la culture grecque, tout l'univers monastique qui commence à se constituer à partir de la fin du IIIe siècle. On a certains moines ou certains théoriciens de la vie solitaire qui vont opposer radicalement la vie spirituelle et l'hellénisme. On le voit par exemple dans la vie d'Antoine d'Athanase. Athanase d'Alexandrie, dans la première moitié du IVe siècle, écrit la vie de cet anachorète. Il le présente comme un illettré, comme un ignorant, qui est confronté à plusieurs reprises à des philosophes, et il les met en déroute par son ignorance, en fait. Hein. Et Antoine est un saint qui défend un idéal spirituel fondé sur l'ignorance et sur le rejet de tout ce qui vient des Grecs. Mmh. Donc voilà, pour ces chrétiens qui sont plutôt opposés à la culture grecque.
Alors je cite quand même un texte magnifique de Théophile d'Antioche qui dit « Qu'a-t-il servi à Homère de raconter la guerre de Troie et de tromper beaucoup de lecteurs ? Ou à Hésiode de dresser dans la Théogonie le catalogue de ceux qu'il nomme des dieux ? Ou à Orphée de citer les 365 dieux pour finalement dire qu'il n'y en avait qu'un seul ?» Voilà. Donc là on est vraiment dans l'opposition, et pourtant ce sont des hommes qui utilisent la langue grecque, qui utilisent la langue latine.
Oui, c'est un paradoxe, et c'est un paradoxe qui visiblement ne les gêne pas, mais c'est un paradoxe qui explique peut-être l'attitude d'autres chrétiens qui, au contraire, vont essayer de se rapprocher de la culture grecque, et ils le font principalement pour deux raisons. Ils le font parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont confrontés souvent à des attaques qui viennent des Grecs. Hein, les Grecs reprochent aux chrétiens de prêcher une foi irrationnelle, en fait, d'être incapables de rendre raison de leur doctrine. Et contre ces attaques, il y a un certain nombre de chrétiens, comme Justin, par exemple, qui écrit une apologie vers 150, 160, qui essaye de montrer que la foi des chrétiens n'est pas irrationnelle, que certaines doctrines peuvent être expliquées, et même que les chrétiens disent la même chose que les Grecs. C'est ce que soutient Justin, nous disons la même chose que les Grecs. Donc, à partir de Justin, et on pourrait citer d'autres auteurs qui s'inscrivent dans le même sillage, l'une des stratégies des apologistes, contrairement à celle de Tatien ou de Théophile, consiste à montrer qu'il n'y a pas de désaccord fondamental entre les Grecs et les chrétiens. Finalement, les chrétiens disent la même chose que les Grecs. Mmh. Donc ça, c'est une première raison qui explique le rapprochement qui s'opère chez certains auteurs entre christianisme et hellénisme. La seconde raison, c'est le fait que l'hellénisme, aux yeux d'autres chrétiens, je pense à Clément d'Alexandrie, par exemple, à la fin du IIe siècle, malgré ses erreurs, parce que finalement tous ces chrétiens, quelle que soit leur opinion, estiment qu'il y a des erreurs dans l'hellénisme, mais il y a certains chrétiens qui estiment que malgré ces erreurs, l'hellénisme constitue fondamentalement quelque chose de bon, quelque chose d'utile, de profitable, qu'il ne faut pas tout rejeter. Hein. Et Clément écrit des stromates entre la fin du IIe siècle et le début du IIIe siècle. Le stromate, ça veut dire tapisserie, dans lequel il essaye de montrer que l'hellénisme vient de Dieu et pourrait même représenter un testament, c'est le mot qu'il utilise, un testament comparable à celui des Juifs. Et ce testament que représenterait l'hellénisme aurait eu dans l'histoire la même fonction que le testament des Juifs, c'est-à-dire pour Clément, celle de préparer les Grecs à l'évangile.
Est-ce qu'il n'y a pas dans ce rapport à l'hellénisme une sorte de parallélisme avec le rapport au judaïsme, dans la mesure où le christianisme a retenu, on le voit bien notamment sur le plan liturgique, bien des idées du judaïsme, et bien sur ce qui concerne la Grèce, on est vraiment dans le même registre, mais là, uniquement sur le plan de la pensée.
Oui, c'est juste. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que chez les auteurs patristiques, les premiers, hein, ceux du IIe siècle, mais également les plus tardifs, on trouve très souvent l'idée que les chrétiens sont d'anciens Grecs. Alors c'est très étonnant parce que c'est une demi-vérité historique, hein, qui occulte le fait que le christianisme comme religion est avant tout issu du judaïsme. C'est très étonnant parce qu'en fait ces auteurs se représentent les choses d'une autre façon. Hein. Pour eux, le christianisme est dès le départ distinct du judaïsme. Mais ils n'arrêtent pas de dire « nous sommes d'anciens Grecs et nous avons rejeté l'hellénisme ». Donc on voit bien que pour eux, finalement, la filiation qui compte le plus et celle qu'il faut justifier, c'est la filiation avec l'hellénisme.
Donc le christianisme prend en quelque sorte l'hellénisme comme un outil ?
Oui. En fait, c'est un peu comme ça
où ils vont pêcher. Il y a d'ailleurs une citation que vous donnez, c'est un, voilà, je prends le miel là où il se, je prends mon miel là où il se trouve. On a l'impression que ce rapport est caractérisé par cette citation. On prend certains aspects, mais pas d'autres.
Oui, en fait, cette image, vous la trouvez dans l'écrit aux jeunes gens de Basile de Césarée, donc dans la deuxième moitié du IVe siècle. Effectivement, ça, c'est la doctrine qui commence à se mettre en place, je dirais, après Clément d'Alexandrie, et à travers des auteurs comme Origène, Eusèbe de Césarée, et puis ensuite les Cappadociens, dont Basile de Césarée fait partie. Donc, entre le IIIe et le IVe siècle, se met en place cette idée qui va finalement s'imposer parce qu'elle résout beaucoup de problèmes. Hein, dire que finalement, l'hellénisme est quelque chose dans lequel il y a des doctrines à rejeter, mais également des doctrines utiles. C'est une position assez confortable parce que ça permet, si vous voulez, de concilier, je dirais, sur le plan théologique, le rejet inévitable que doit susciter cet univers intellectuel parce qu'il est polythéiste, parce qu'il est inspiré par les démons pour les auteurs, et en même temps ce fait contre lequel il bute sans arrêt, à savoir que bien finalement, les textes grecs sont quand même extrêmement intéressants, extrêmement utiles, et ils représentent un patrimoine intellectuel dont personne ne peut raisonnablement se passer. Donc finalement, se met en place cette idée, si vous voulez, que l'hellénisme peut être utile dans la mesure où on choisit avec discernement ce qui doit être repris, et dans la mesure surtout où on le met au service de la foi. Hein, donc on a une conception ancillaire, en quelque sorte, hein, de l'hellénisme qui se met en place, c'est-à-dire que l'hellénisme est bon dans la mesure où il sert la foi et le christianisme.
Est-ce que avant que cette idée s'impose, on a des oppositions entre des personnages? Vous parlez, vous expliquez bien dans votre livre que finalement ces questions sont des questions qui sont liées à des discussions d'une élite. Elles ne concernent pas tout le monde, pas tous les chrétiens, mais est-ce que on remarque, ou est-ce que les textes nous donnent l'exemple de ce qu'on appellerait une sorte de disputatio, même si ce serait un anachronisme, donc la disputatio médiévale de joute oratoire entre, d'une part, ceux qui étaient partisans de l'intégration de l'hellénisme, de l'assimilation, et ceux qui étaient contre?
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le type de la disputatio existe, en fait, dans l'Antiquité. C'est pas du tout une réalité qui apparaît au Moyen-Âge. On sait que dans l'Antiquité tardive, il y avait des débats, des dialexeis en grec, des disputationes. Mais, en fait, on connaît des débats entre des chrétiens et des païens. On a également des attestations de débats entre des chrétiens et des juifs. Et on a, pour finir, des attestations de débats entre chrétiens, mais, à ma connaissance en tout cas, pas sur la question de l'hellénisme. Ces débats entre chrétiens, ils ont lieu en général dans le contexte des controverses théologiques, donc les défenseurs du Concile de Nicée contre les Ariens, par exemple, mais à ma connaissance, non, il n'y a jamais eu de débat, de joute oratoire entre les chrétiens favorables à la culture grecque et les chrétiens qui y étaient opposés. En revanche, on sent dans les textes des polémiques sous-jacentes. Hein, Clément d'Alexandrie, par exemple, on est très tôt, on est à la fin du IIe siècle, lorsqu'il s'efforce de montrer que l'hellénisme ne vient pas du diable, mais de Dieu, clairement, il polémique contre d'autres chrétiens. Mmh. Donc finalement, les chrétiens qui sont favorables à l'hellénisme savent très bien qu'il y a d'autres chrétiens qui ne sont pas de cet avis.
Alors je reste sur Clément, parce que Clément cite précisément le Nouveau Testament, l'Épître à Timothée, « Examinez tout et retenez ce qui est bon », et il évoque également le Christ lui-même devenait des changeurs éprouvés. Donc il y a une volonté de relier le débat à la réalité du texte lui-même de l'Évangile.
Ah oui, bien sûr, ça c'est très important pour les auteurs. Aucune doctrine affirmée dans ces textes n'est présentée comme étrangère à l'Écriture, parce qu'il y aurait là évidemment une objection majeure contre cette doctrine. Donc les auteurs, en fait, quelle que soit leur doctrine, essayent toujours de la fonder dans le texte, au prix parfois d'interprétations qu'on peut trouver contestables aujourd'hui. Soyez des changeurs éprouvés, c'est intéressant, parce que c'est un agraphone, c'est-à-dire une parole de Jésus que Clément connaît, mais qui ne se trouve pas dans nos textes du Nouveau Testament. Donc c'est assez intéressant. On ne sait pas du tout ce que veut dire cette phrase qui est prêtée à Jésus, mais en tout cas, Clément la prend comme une invitation à savoir recevoir finalement de l'étranger ce qui est bon et de l'utiliser avec discernement.
Est-ce que c'est une forme de, si vous me permettez, de préfiguration de l'œcuménisme ?
Oui, c'est même, à mon avis, plus que ça. C'est-à-dire que finalement, je pense que tout ce débat avec l'hellénisme a beaucoup compté dans la façon dont les premiers chrétiens, très très vite, se sont sentis investis d'une universalité, en fait. Hein. Ils ont vraiment conscience, non pas de représenter une communauté, mais d'incarner la vérité, hein, pour le dire clairement. On parle plus beaucoup de vérité dans nos sociétés, mais enfin les chrétiens sont vraiment des combattants de la vérité. Ils sont vraiment convaincus que le message chrétien est un message universel qui représente la vérité, ni plus ni moins.
Alors je reviens au chapitre de votre ouvrage. Donc tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent constitue le premier chapitre, qui est le chapitre le plus important, qui pose le débat. Mais après, dans la suite de votre ouvrage, vous analysez chacune de ces fameuses disciplines qui constituent la réalité de la culture grecque. Et la première d'entre elles, et donc vous étudiez pour chacune d'entre elles la position des chrétiens, des textes chrétiens vis-à-vis de la discipline. Et la première d'entre elles, c'est la grammaire et la rhétorique, qui ont un sens bien évidemment tout autre que celui que nous avons.
Oui, alors d'abord ce sont deux disciplines qui en général sont distinguées dans l'Antiquité. La grammaire, c'est une discipline qui est beaucoup plus vaste que ce que nous appelons la grammaire, parce qu'en fait c'est l'enseignement à la fois des lettres, mais des textes. Donc le cours de grammaire, c'est un cours fondamental dans l'Antiquité, c'est vraiment la matière reine, si vous voulez, qui est à la base de toute la culture. Parce que dans le cours de grammaire, on apprend à lire, à écrire, mais en fait, on se forme pratiquement à toutes les disciplines intellectuelles à partir des textes. Donc c'est vraiment une matière très importante. La rhétorique, c'est un peu différent. La rhétorique, c'est l'art de la persuasion. Donc c'est une discipline qui, en général, relève plutôt de l'enseignement supérieur. Donc on suit le cours de rhétorique après une formation en grammaire. Et ce qu'on apprend dans le cours de rhétorique, ça n'est pas à lire les textes et à les comprendre, mais c'est au contraire à composer des discours et à développer des arguments. Mais bien sûr, les deux matières sont liées, souvent.
Alors, je ne peux pas m'empêcher de parler de l'histoire, hein, parce que nous avons cette vocation historique, et vous expliquez que la discipline de l'histoire était souvent décriée par les chrétiens comme une science quasi mensongère, parce qu'elle était fondée sur des conjectures et des tâtonnements.
Oui, alors le point de vue des chrétiens sur l'histoire grecque est assez intéressant et peut nous sembler aujourd'hui un peu paradoxal, parce que dans certains textes chrétiens, Théophile d'Antioche par exemple, on a des charges assez vives contre l'histoire grecque, parce que l'histoire, comme d'autres disciplines finalement, témoigne pour ces chrétiens du fait que les Grecs ont voulu édifier un savoir, je dirais, par leur propre force, sans l'aide de Dieu. Et bien sûr, ils se plaisent à comparer et à opposer l'histoire grecque et l'histoire biblique. L'histoire pose un problème particulier parce qu'il se trouve que dans la Bible, dont les chrétiens se réclament, il y a des textes historiques. Et la foi des chrétiens, elle est fondée en grande partie sur une histoire. Il n'y a pas de foi chrétienne sans l'histoire du peuple de Dieu. Et un auteur comme Théophile souligne des différences fondamentales, selon lui, entre l'histoire biblique et l'histoire grecque. L'histoire biblique, elle est révélée, alors que l'histoire grecque, finalement, c'est le produit des réflexions personnelles de tel ou tel écrivain. Et puis par ailleurs, ce qu'il reproche à l'histoire grecque, c'est de se concentrer sur des événements qui, pour le chrétien, n'ont finalement aucune importance sur le plan mondial, c'est-à-dire des petits conflits, des petites guerres, la guerre du Péloponnèse, par exemple, alors que dans la Bible, il est question de la création, il est question de la fin du monde, donc évidemment des questions bien plus fondamentales. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout ce regard assez négatif sur l'histoire grecque s'explique parce que les chrétiens ont des préoccupations, on dirait aujourd'hui métaphysiques, spirituelles, qui sont tout à fait différentes, finalement, des Grecs.
Je reçois Sébastien Morlet, auteur du livre « Les chrétiens et la culture » paru aux belles lettres. Donc « Les chrétiens et la culture, conversion d'un concept ». Nous sommes dans les premiers siècles du christianisme, et je mentionne également « Christianisme et philosophie ». Là aussi, les premières confrontations, 1er, 6e siècle, un livre paru dans la collection « Référence » du livre de poche. Quid de la poésie, Sébastien Morlet ? On imagine que les chrétiens sont peu portés vers l'art, qui serait un peu considéré comme une perte de temps ?
Oui, tout à fait. La poésie, dans les premiers textes, en tout cas, suscite de grandes méfiances parce qu'elle est considérée très souvent comme le genre par excellence du mensonge. Hein, la poésie ment. On trouvera souvent d'ailleurs dans la tradition occidentale cette association entre la poésie et le mensonge, comme si la vérité ne pouvait se dire qu'à travers la prose. Hein, dès lors que vous vous exprimez sur le mode poétique, ben, finalement, vous n'êtes plus dans l'expression de la vérité. Donc on trouve des textes qui développent cette idée, et puis par ailleurs il ne faut pas oublier que les grands textes poétiques grecs sont en même temps des textes de nature mythologique. On peut penser à Hésiode, au poème d'Hésiode. Donc la poésie pour les chrétiens a souvent été le vecteur justement du mythe, de toutes ces erreurs qu'ils associent aux démons. Donc dans un premier temps ils tournent le dos à la poésie, mais ce qui est intéressant c'est que très vite va naître également une poésie chrétienne, et une poésie chrétienne qui emprunte au mode d'expression poétique des Grecs. Et là on a un bon exemple d'intégration de l'hellénisme dans la pensée chrétienne. Un auteur comme Grégoire de Nazianze, par exemple, dans la deuxième moitié du IVe siècle, va écrire un nombre considérable de poèmes en hexamètre dactylique, donc comme Homère, comme Hésiode, avec beaucoup d'échos, beaucoup de reprises aux grands textes épiques grecs, des poèmes qui sont de nature autobiographique ou théologique. Donc là, on a un très très bon exemple de la fusion, de l'intégration qui se joue entre deux mondes culturels. Finalement, un auteur comme Grégoire de Nazianze va beaucoup compter dans l'acceptation de tout ce patrimoine, parce qu'il va montrer que finalement on peut très bien associer la poésie à l'expression d'autre chose que le polythéisme.
Venons-en à la dialectique. La dialectique, c'est intéressant, parce que la dialectique, qu'est-ce donc sinon l'art de mener une conversation par des questions et des réponses ? Et on imagine que ces hommes qui christianisent l'Empire romain sont des gens qui, de fait, doivent répondre à des questions. Est-ce que la dialectique est plus facile à intégrer que ne l'a été, par exemple, la poésie ?
Je ne sais pas. Peut-être un peu plus, effectivement, et pour les raisons que vous avez évoquées. Mais encore une fois, dans un premier temps, la dialectique suscite souvent des méfiances parce que elle apparaît comme un art purement formel, en fait, l'art de mener des débats, mais surtout l'art très sophistique, en fait, de démontrer finalement toutes les positions, les meilleures comme les pires. Donc certains chrétiens se méfient beaucoup de la dialectique, hein, qu'ils associent d'ailleurs souvent à Aristote. Il y a là pour eux une science trompeuse, mensongère, dont ils se méfient. Mais ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens vont être confrontés à des situations concrètes. Débat avec les païens, hein, obligation de montrer aux païens que leur foi n'est pas irrationnelle, et donc on voit certains apologistes recourir, peut-être malgré eux, à des arguments dialectiques. Et puis par ailleurs, à l'intérieur même de l'Église, dans le cadre notamment de la crise arienne, c'est-à-dire de ce grand débat qui naît dans les années 320 sur la nature de la Trinité, hein, la question notamment de savoir si le Fils dans la Trinité est une créature ou est Dieu au sens propre, eh bien, beaucoup de débats vont s'appuyer sur la dialectique et sur des arguments dialectiques, et les grandes controverses théologiques, on pourrait évoquer également tout le débat sur l'incarnation à partir du 5e siècle, vont être l'occasion pour les chrétiens de déployer toute une série d'arguments dialectiques. Donc c'est à cette époque, je dirais entre le 4e et le 7e siècle, donc la fin de la controverse christologique, que la dialectique rentre véritablement dans les habitudes des théologiens, si bien que au Moyen-Âge, que ce soit à Byzance ou en Occident, cet usage de la dialectique ne posera plus aucun problème.
Est-ce que matériellement, parce que vous disiez que Clément, je crois, utilisait Aristote, on essaie de se représenter la chose et de se dire, il avait les textes d'Aristote et il travaillait sur ces textes et il écrivait ses discours en fonction de ce qu'il lisait chez Aristote.
Alors c'est très compliqué et puis je pense que la situation varie d'un auteur à l'autre, d'une époque à l'autre. On a affaire, il ne faut pas l'oublier, à des auteurs qui d'abord sont très cultivés, qui ont été véritablement nourris des textes, des enseignements qu'ils ont reçus. Donc très souvent...
Tradition orale donc.
Je dirais l'enseignement, il ne faut pas oublier ouais. L'enseignement en fait. Il y a un enseignement extrêmement poussé. Dans l'Antiquité, donc oui, tradition orale si vous voulez, mais l'enseignement s'appuie souvent sur des manuels, donc il y a également des textes hein, qui interviennent dans l'enseignement. Donc il y a beaucoup d'idées, de reprises d'idées grecques qui s'expliquent à mon avis de cette manière. Et puis par ailleurs, il y a des auteurs qui effectivement lisent, collectent des livres, ont des bibliothèques personnelles, et dans certains cas, lorsqu'ils rédigent des ouvrages, ils ont, comme vous dites, sous les yeux des ouvrages. Il faut savoir, ça c'est quelque chose qu'on méconnaît souvent, que dans l'Antiquité, quand on était un lettré, on ne lisait pas sans prendre de notes. Et ces notes prenaient la forme d'extraits la plupart du temps. Autrement dit, c'était très courant chez un lettré de recenser pendant sa lecture les passages importants. Et ces passages importants étaient reportés dans des cahiers. Donc les lettrés se constituaient en fait des collections personnelles d'extraits. Hein. Et quand on a ça à l'esprit, je crois qu'on comprend mieux comment naît, se développe la littérature de l'époque romaine. Ils ont des collections d'extraits et ils puisent dans ces collections d'extraits pour écrire leurs ouvrages. Voilà.
La musique... On imagine aujourd'hui l'art musical comme un art un peu annexe. Or, vraiment, chez les Grecs, la musique fait partie intégrante de la culture grecque. Et quand on est cultivé, on doit connaître impérativement cette musique.
Oui, c'est l'un des grands piliers de la culture grecque, je dirais, dès les origines, dès l'époque classique. Et elle va rester très importante dans l'enseignement jusqu'à la fin de l'Antiquité. Et donc, les chrétiens sont également confrontés à cette question. Que faire de la musique ?
Mais je ne sais absolument rien sur l'histoire de la musique, mais est-ce que l'on sait si les premiers chrétiens utilisaient les chants, par exemple, lors des cérémonies, parce que le chant est très présent dans l'Ancien Testament, peut-être moins dans le Nouveau Testament, mais en tous les cas, il est très présent dans l'Ancien Testament.
Oui, tout à fait. On a des textes hein, qui sont bien documentés, qui évoquent l'utilisation de la musique, des chants, pendant les liturgies dès le IIe siècle.
Donc là aussi, c'est une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que la musique fait partie de l'hellénisme, il y a des oppositions, mais on finit par intégrer la chose.
Oui, mais il faut préciser quand même que la musique pose de fait un cas particulier parce que les chrétiens savent bien que la musique n'est pas d'essence grecque. Hein, ils savent très bien qu'effectivement, il y a une musique juive, une musique égyptienne, que tous les peuples, finalement, ont pratiqué la musique. Donc, cette situation donne à la musique un statut un peu particulier parce que finalement, de toutes les disciplines de la culture grecque, c'est peut-être celle qui est le moins liée directement à l'hellénisme. Ce qui explique aussi que, très probablement, c'est celle des disciplines grecques qui va poser le moins de problèmes aux chrétiens, parce que finalement, si on accepte la théorie musicale, parce qu'il y a une théorie musicale très poussée chez les Grecs, finalement, l'adoption de la musique ne pose pas vraiment de problème aux chrétiens.
Alors, des personnes pensent encore que le christianisme et l'histoire du christianisme, en général, a toujours eu un problème avec la science. Or, vous montrez très bien que ce sont des hommes qui s'intéressent aussi à l'astronomie, comme les Grecs.
Oui, donc là encore, l'astronomie dans certains textes suscite quelques méfiances parce que elle apparaît comme l'histoire, comme une science un peu vaine, remplie de spéculations, très, très tâtonnante, très incertaine. Et en même temps, c'est toujours pareil en fait, on a des textes qui s'intéressent à l'astronomie pour plein de raisons, parce que finalement, le théologien ne peut pas ne pas s'intéresser à tous les aspects de la création, ne peut pas ne pas essayer de comprendre le sens de cette création. Et donc on a des auteurs comme Basile de Césarée, par exemple, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui, dans ses commentaires de ce qu'on appelle l'hexaéméron, c'est-à-dire le récit des six jours de la création. On a des homélies de Basile sur l'hexaéméron. Et bien cet auteur utilise constamment la science grecque. Il essaye d'exploiter finalement l'astronomie pour essayer de comprendre le texte biblique.
Alors on arrive, Sébastien Morlet, au terme de cette émission. Vous expliquez dans votre conclusion que on assiste à une mutation comme il n'y en a pas tant que cela dans l'histoire de l'humanité, mais c'est la création d'une culture, et en l'occurrence c'est une culture chrétienne, et que cette culture chrétienne est intimement liée à l'hellénisme.
Oui, alors ce qui change en fait... avec les chrétiens, et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas en général, et comme vous l'avez dit, c'est quand même un petit événement dans l'histoire des idées, c'est au-delà de toute cette réflexion sur l'hellénisme et sur ce qu'il faut faire de telle ou telle discipline, c'est une réflexion de fond sur l'idée même de culture. On a dit tout à l'heure, en commençant l'émission, que pour les Grecs et les Romains, la culture se dit au singulier, il n'y a qu'une culture. Dans les textes chrétiens, dès le IIe siècle, par exemple, on voit ce concept utilisé au pluriel. Les chrétiens opposent notre culture et votre culture, la culture des Grecs, comme s'il pouvait y en avoir plusieurs. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et donc, cette littérature chrétienne va nourrir l'idée qu'il peut exister plusieurs cultures et que l'idéal culturel fondamental est forcément un idéal pluriel. Hein. Vous avez parlé de culture chrétienne, c'est vrai que c'est une culture chrétienne qui se met en place, mais comme vous l'avez dit également, cette culture chrétienne n'existe pas sans l'apport des Grecs. Et donc, les chrétiens, c'est ce que j'ai essayé de montrer effectivement dans ce dernier chapitre, sont les premiers, à ma connaissance, à mettre sur pied un idéal qu'on pourrait qualifier, c'est un peu anachronique, mais de multiculturel. C'est-à-dire que finalement, leur idéal culturel emprunte à la fois au monde biblique et au monde grec, et ils ne font pas de différence fondamentale entre les deux.
Le christianisme antique ne peut entrer à l'âge médiéval sans ce bagage culturel grec.
Effectivement, je crois qu'on ne peut rien comprendre au christianisme médiéval, à l'histoire de la théologie médiévale et de ses rapports avec la philosophie, sans toute cette réflexion qui a été celle des auteurs patristiques.
Alors en lisant votre livre, bien évidemment, je le disais en introduction, je parlais de la foi et de la raison. Or, la foi et la raison, c'est un débat qui domine le 19e siècle, mais aussi le 20e siècle jusqu'à nos jours. Jean-Paul II a écrit « Fides et ratio ». Je me souviens aussi d'un débat entre le cardinal Ratzinger, qui était intervenu pas très loin d'ici, à la Sorbonne, en l'an 2000, lors d'une leçon, et il y avait eu une disputatio avec Monseigneur Ray, si mes souvenirs sont bons, et Monseigneur Ray disait et reprochait au cardinal Ratzinger de ne pas avoir intégré le fait romain et le droit romain dans sa réflexion. Or, le cardinal Ratzinger lui a répondu dans la croix en lui disant « Mais le fait romain et le droit romain n'intervient que très tardivement, alors que le fait grec, lui, est à l'origine. »
Oui, je serais assez d'accord avec ça, en fait, effectivement. J'ai pas le sentiment que la question romaine, il y a une question romaine dans les textes qui se pose, qui est un peu du même ordre que la réflexion sur l'hellénisme, mais elle ne fait pas vraiment intervenir la question du droit. C'est une question qui finalement fait intervenir la question de savoir ce qu'il faut reprendre de la littérature latine, mais c'est pas un débat aussi fondamental que le débat avec l'hellénisme. Je crois vraiment qu'effectivement ce débat avec l'hellénisme est beaucoup plus constitutif de l'identité chrétienne.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Sébastien Morlet, pour cette émission absolument passionnante sur les rapports du christianisme et de l'hellénisme. Je rappelle le titre de votre ouvrage, de vos ouvrages, donc « Les chrétiens et la culture », un livre paru aux éditions Les Belles Lettres, « Conversion d'un concept, 1er-6e siècle », et sur la même période, un autre ouvrage, « Christianisme et philosophie, les premières confrontations », paru au livre de poche. bouche un dernier mot pour dire que je tiens à dédier cette émission à Richard. Il se reconnaîtra puisque c'est lui qui, lors d'une conversation, m'a parlé de votre ouvrage, alors que précisément je lui parlais des rapports de la foi et de la raison, et donc du cardinal Ratzinger. Merci beaucoup Sébastien Morlet.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour une nouvelle émission des grands entretiens de Storia Voce.